Bonjour à vous tous. C'est pour moi une grande joie d'être avec vous ce matin. La dernière fois que j'étais là, c'était mon podium. C'était le 16 décembre 2001. Ça fait long en arrière. Hein?
14 ans, oui. Hein?
Bientôt 14 ans, oui. Mais ce qui n'a pas changé depuis, c'est la parole de Dieu. Elle est la même, elle reste la même. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur un thème qui n'est certainement pas nouveau pour vous, que vous ne connaissez pas cœur. En Jean 13, 34, les paroles de Jésus lui-même. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et en Jean 15, 12, il nous dit ceci, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il serait bon de savoir de chacun d'entre vous ce que vous comprenez par amour ou aimer. Il serait bon, mais on ne le fera pas, que chacun d'entre vous écrivait deux phrases, ce que lui-même comprend par aimer. Et ce que c'est l'amour en général. Au XVIIIe siècle, il y avait un homme de la haute société qui un jour a trouvé un jeune avec son catéchisme et Bible en main, assis sous un pommier dans un verger, et qui lui a posé la question suivante. « Jeune homme, pourrais-tu me dire où est Dieu ?» Le jeune homme se lève pour manifester le respect que les jeunes avaient dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est guère plus la même chose. Mais dans le temps, on se levait devant une personne âgée. Et ce jeune homme a dit, « Monsieur, pouvez-vous me dire où Dieu n'existe pas, où qu'il n'est pas ?» Cet homme de la haute société était perplexe. Il ne savait pas quoi répondre. Et cet homme, c'était, vous l'avez deviné, Voltaire. Voltaire, un philosophe, écrivain français, qui vivait au XVIIIe siècle. Cet homme disait, je sais que Dieu existe. Et pourtant, c'était un athée, mort comme un athée qui a maudit Dieu jusqu'à son dernier souffle. Je sais que Dieu existe. Je sais que je dois l'aimer. Il le savait. Il en était même embarrassé, puisqu'un jour il se disait à lui-même, il a écrit dans un de ses livres, « Le monde m'embrasse à tel point que je ne puis songer que l'univers, cette grande horloge, puisse fonctionner sans horloger. » C'est ça qui l'embrassait. Pourtant, quelque part, il savait que Dieu existe. Mais il était bloqué à ce point-là. Il voyait même que l'enfant avait raison lorsqu'il a dit « Montre-moi que Dieu n'existe pas ». Ça veut dire que Dieu existe partout. Le psaume 139 nous dit « Si je me tourne à droite, tu y es. Si je me tourne à gauche, tu es. Si je regarde en haut, tu es. Si je regarde en bas, tu es. Si je regarde devant moi, derrière, tu es présent. » Et pour ce David, il connaissait Dieu. Mais Voltaire ne le savait pas ou ne voulait pas le savoir. Et c'est la raison de la différence. Ce que Voltaire ne savait non plus pas, c'est que si c'est vraiment Dieu qui fait tourner cette horloge immense, l'univers, la Terre, et que c'est Dieu qui a créé les hommes et les femmes, il a oublié que ce créateur s'occupe également de ses créatures, qu'il les aime, et qu'il voudrait être en relation avec ses créatures. Est-ce qu'il ne savait pas ou est-ce qu'il ne voulait pas le savoir? Adam et Ève, dans le jardin, ont péché, c'est vrai, nous connaissons l'histoire. Et c'est Dieu qui est allé à leur rencontre. Adam, où es-tu? Ce n'est pas Adam et Ève qui se la rencontrent Dieu, non. Le Créateur est allé à la rencontre de la créature. Et ce même Dieu, mes amis, frères et sœurs, existe encore aujourd'hui. Nous avons affaire avec ce même Dieu. Nous avons peut-être le même problème. Nous trimballons nos mêmes fardeaux, nos soucis, tout ce que nous avons, au lieu de les déposer à la croix de Golgotha. Parce que Dieu m'aime, Dieu t'aime tel que tu es. Pas seulement ça. La Bible nous dit qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacune de ses créatures. Avec toi, toi, et moi aussi. Il est là. Il attend que je m'adresse à lui. La Bible nous encourage de rechercher cette relation avec lui, de vivre dans cette relation avec Dieu. Elle nous encourage de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, entièrement, d'aimer notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? D'aimer celui qui nous a créés. Il y a des chapitres entiers dans la Bible qui nous parlent de l'amour de Dieu pour nous. Mais aussi des chapitres entiers qui parlent de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Et aussi des chapitres entiers de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Oh, je sais qu'à 10 ans, c'est facile d'avoir de l'amour les uns pour les autres à l'église, dimanche matin, pendant une heure, ensemble. Des fois, là, ça se fait, il y a des petites frictions. Hein, vous non plus en témoignez si c'est vrai. Et pourtant, on est chrétien, frère et sœur. Mais on essaie toujours de revenir à ce point de départ. D'avoir cette relation fraternelle les uns avec les autres. La Bible nous parle également de ce que c'est l'amour et de ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas tout ce que nous croyons. Peut-être connaître de l'amour. Elle va beaucoup plus profond. Parce que si vous relisez à la maison 1 Corinthiens 13, vous voyez que l'amour est patient, dit Paul. Oh, je sais que vous, ici à Darnay, vous êtes toujours en pleine patience, n'est-ce pas? Plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à faire valoir. L'amour ne s'en fait pas d'orgueil. C'est Paul qui le dit toujours. Il ne fait rien d'inconvenant. Il n'ajoute pas la légère. L'amour. Mais l'amour aime la vérité. Et Paul dit que la vérité le réjouit même. Je reviens plus tard parce que amour et vérité, nous ne pouvons pas les dissocier l'un de l'autre. Ils vont toujours, toujours ensemble. Toujours le Père, l'amour et la vérité. En toute occasion, l'amour. Moi, j'ai des problèmes avec ça, pardon. Peut-être pas vous. L'amour, en toute occasion, fait confiance à l'autre. L'amour espère en tout temps. Et ainsi de suite. Mais avons-nous réfléchi ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas? J'aime beaucoup la traduction d'Alfred Kuhn qui dit ceci: mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais que notre amour se traduise en actes accomplis dans la vérité. Amour et vérité. Aimer, en tout premier, dit la Bible, veut dire avoir une relation particulière avec quelqu'un. Ceux qui sont mariés d'entre vous le savent en particulier. C'est avoir de l'affection envers quelqu'un, pour quelqu'un. C'est se sentir attiré vers quelqu'un. C'est lui faire confiance en toutes choses. Ne jamais douter des paroles ou des actes de son conjoint, de sa femme. La Bible nous rappelle, je répète, en 1 Corinthiens 12, 13. C'est Paul qui dit ça. Mais de quel amour parle-t-il? En grec, il y a trois significations pour amour, trois mots. Mais en français, nous en avons seulement un. Amour. Amour. Ce qui m'a frappé en préparant ce passage, cette prédication, c'est que le chapitre 12 d'un Corinthien, Paul le termine ainsi. Aspirez aux dons les meilleurs. Mais pour cela, je vais vous montrer et indiquer une approche par excellence. Comme ça qu'il termine le chapitre 12 d'un Corinthien. Pour moi, c'est l'hymne de l'amour de l'apôtre Paul, ou du Nouveau Testament, comme vous voulez. Et le chapitre 14, bizarrement, il commence par « Ainsi, recherchez avant toute autre chose. » Oh, les uns diront, les dons miraculeux, extra, formidables. Non. L'apôtre Paul nous dit « Recherchez avant toute autre chose. » L'amour. Il a montré entre le chapitre 12 et 14 que le chapitre de l'amour, c'est le chapitre qui doit concerner chaque chrétien en particulier. Si nous n'avons pas d'amour pour Dieu, pas d'amour pour le prochain, pas d'amour pour moi-même, il dit, je ne suis rien. Au premier verset, chapitre 13, dit, même si c'est parler toutes les langues du monde entier, même celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour en moi, ça ne me sert à rien du tout. Je suis comme une cloche qui sonne. Je crois qu'il est très important de bien s'entendre sur la signification du mot amour. C'est vrai. Ce beau mot a été malheureusement sali. On l'emploie là où il n'a pas sa place. Ce mot exige une définition précise, tout particulièrement à notre époque aujourd'hui, où il est presque devenu vulgaire. Le mot amour. L'amour dont Paul parle dans ce passage n'est ni un amour romantique, ni un amour d'une attirance sexuelle. Dernièrement, j'ai lu un petit article d'un type, je n'ai pas à faire, c'était un catholique, qui était marié trois fois. il s'est divorcé 3 fois. Et après cette belle phrase, maintenant j'ai trouvé mon grand amour. Vous comprenez quelque chose, moi non? L'amour selon la Bible n'est pas seulement un esprit de tolérance. Ouais, je tolère tout parce que je l'aime. C'est une fraternité chaleureuse et amicale. L'amour. Parce que l'amour vient d'en haut, de Dieu. Un passage de Paul nous dit, l'amour de Dieu a été versé ou jeté dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et Paul ajoute dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Voilà la source de notre amour que nous avons les uns pour les autres. Elle vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, ce serait parfait si chacun d'entre nous, moi aussi, on pourrait s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Ce serait parfait. L'amour est fort et ferme. Des fois, on entend dire, oh, ne sois pas si sincère, si sérieux, lâche un peu, donne un peu, cède un peu. Mais l'amour n'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose qui est vrai. Dieu ne dit pas toujours oui à toutes nos demandes. Des fois, il est obligé de dire non. Des fois, il est obligé de dire attends. Attends encore un peu. Il y avait une fois les parents d'un jeune garçon de 4 ans, 4-5 ans, qui était dans le supermarché. Et ils allaient boire un petit café. Et le garçon, ils ont dit, voilà, qu'est-ce que tu veux? Soit un Coca-Cola, soit des jus de pomme, soit des jus de raisin, soit des sirop de, et ainsi de suite. Maintenant, décide-toi. C'est peut-être aussi une forme d'amour, mais je ne crois pas. En l'occurrence, c'était la seule forme d'amour pour que les parents puissent être en paix et que le jeune s'amuse pendant un certain temps. Et les parents peuvent faire ce qu'ils veulent. Les paroles, disait quelqu'un, les parents disaient quelqu'un, n'aime cet enfant pas intelligemment. Ils l'ont gâté. Il lui donne l'idée fausse que plus tard, tout ce que tu veux dans ta vie, tu peux l'avoir. Tout ce que tu désires, tu peux l'avoir. Tout ce qui te plaît, tu peux l'avoir dans ta vie. Mais les parents n'ont pas compris les conséquences de leur choix. Ne soyons pas trop durs avec ses parents. Moi, au début, je voulais les condamner. C'est pas juste ce que vous avez fait. Mais l'enfant, plus tard, il le faisait sentir alors, de longtemps. C'est lui qui les reprendra, dire, mais vous m'avez donné tout ce que je voulais. Et maintenant. Voilà. Oui, l'amour vrai, par contre, est un amour fort et ferme. Il sait dire non. En tant que parent, des fois, c'est difficile de dire non aux enfants. Mais des fois, il faut le dire non parce qu'on les aime. Parce que vous les menez sur le bon chemin. On veut les conduire vers Dieu. Il faut leur dire non. Et un certain frère disait une fois, dire non sans faiblir dans sa décision. Généralement, on dit, Papa dit non. Et maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Puis, vas-y, fais-le. Mais si c'est non, ça va être non des deux côtés. Si c'est oui, ça doit venir des deux côtés, papa et maman. L'amour, le vrai amour, c'est un amour ferme, un amour fort, un amour sincère. Le faux amour ne pense qu'à soi-même, à ses propres désirs, ne pense qu'à posséder pour moi. Il exige même, et si la réponse attendue ne vient pas, l'amour des fois peut se changer en violence, peut changer en mépris de l'autre, parce qu'il n'a pas voulu faire ce que moi je désire. Le véritable amour, ce n'est pas d'être heureux, mais de rendre heureux. Il ne cherche pas son propre intérêt, dit l'apôtre Paul. Le bien et l'épanouissement de l'autre. Mais Jésus dit à ses disciples de s'aimer mutuellement les uns les autres. Et comme je dis au début, Jean 15, il a ajouté un mot. Et généralement, on dépasse, surpasse ce mot. Seul mot qu'il a ajouté, c'est « comme ». Souvent, on connaît bien cette phrase « aimez-vous les uns les autres ». Mais Jésus dit « comme moi, je vous ai aimé ». Et j'ai l'impression que tout le sens de « aimez-vous les uns les autres » change. Parce que nous avons une manière, à nous, à moi, d'aimer l'autre, d'aimer, de vous aimer tel que vous êtes là. Mais si je dois vous aimer comme Jésus vous a aimé, c'est-à-dire, je dois donner tout ce que j'ai pour vous. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, dit-il. Et Pierre, non, Paul le dit en Éphésiens, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui vous a aimé. C'est le même sens. Aimer Dieu et aimer son prochain exige une décision personnelle de ma part. Je peux me décider d'aimer quelqu'un comme je peux aussi me décider à passer outre. Pas de la haïr, mais de passer outre, de laisser un peu de côté. Je peux également, et ça se fait un peu compliqué, me décider à pardonner à l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu le film Amish, des enfants qui ont tué dans le collège. Là, la mère a dit, nous avons décidé de pardonner. Donc, aimer et pardonner exige une décision si nous voulons l'accomplir dans le sens de la Bible. Tout se décide aujourd'hui, même pardonner à quelqu'un. Je peux pardonner ou je ne veux pas pardonner à Dieu. Combien de choix personnels faisons-nous dans une journée? Dans tous les domaines. Est-ce que ces choix sont toujours faits selon ma volonté ou est-ce qu'ils sont faits pour rendre heureux l'autre ou pour me rendre heureux? Aimer veut dire, je répète, rendre heureux et pas être heureux. Donner. Nous avons peut-être oublié ce mot donner comme Christ a donné sa vie pour moi. Il a donné tout, nous avons entendu chanter tout à l'heure. Tout. Et si on fait un calcul, si je donnais tout à l'autre, qu'est-ce qui me reste pour moi? pour le calcul qu'il fait. Tiens, je donne tout à l'autre. Mais c'est ça que Christ a fait lorsqu'il était là. Il a donné sa vie entière pour que nous puissions, comme nous avons dit tout à l'heure, avoir le pardon de nos péchés. Et mes amis, frères et sœurs, de cette manière-là, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. L'amour que j'ai alors contribuera à l'épanouissement de mes relations avec les autres. Et je crois que là, moi aussi, je devrais faire un examen de conscience. Est-ce que aimer, c'est donner sans attendre quelque chose en retour? Aimer, avoir une disposition de cœur telle que nous ne ressentions aucune amertume, aucune haine, aucune rancœur et aucun désir de nous venger. L'amour espère tout, pardonne tout, comme le Paul dit en Corinthiens 13. Aimer, c'est dire la vérité en toutes choses. Selon 1 Corinthiens 12, 6, 13, 6, pardon, l'amour se réjouit de la vérité. Peut-être un examen de conscience. L'amour et la vérité, je l'avais dit, sont inséparables. Nous ne pouvons pas les séparer l'un de l'autre. Malheureusement, de nos jours aujourd'hui, beaucoup essayent de les séparer en professant la vérité sans amour. Ou d'aimer, mais pas dans la vérité. Et la parole nous dit ce matin encore, professant de l'amour, professant la charité, la vérité dans l'amour, afin que nous puissions croître à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Évitons cependant deux extrêmes. L'un est dangereux plus que l'autre. Les uns, vous avez certainement déjà remarqué ou entendu, prêchent l'amour sans la vérité. Et les autres prêchent la vérité sans amour. L'amour sans la vérité est un amour sentimental, faible, humain et instable, qui conduit à la confusion et à la séduction, et même aux fausses doctrines, parce qu'on annonce quelque chose qui n'est pas juste. La vérité sans amour nous conduit au légalisme, et produit des fois en nous un esprit de condamnation, sachant que moi seul j'ai la vérité et pas les autres. Moi seul et pas les autres. Mais la Bible nous dit que nous devons ensemble grandir, nous édifier les uns les autres. Nous faisons tous partie du même corps de Christ. Nous avons tous besoin du pardon. Nous avons tous besoin de l'amour. Nous devons tous nous épanouir en celui qui a commencé en nous cette œuvre merveilleuse. Vous chantez certainement souvent ce chant qui ressemble à Jésus. Mais est-ce que ces paroles sont vraiment du fond de mon cœur, te ressembler Jésus en toutes choses? pas seulement en parole, mais aussi en acte, en vérité, du prophète de Jean. Quelqu'un disait une fois, quand le moi en moi, vous comprenez ? Quand le moi en moi est crucifié, que Christ et sa parole prennent la place centrale et que nous commençons à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, alors la paix de Dieu et l'unité de l'esprit se rétablissent pleinement dans nos églises. Je parle aussi de notre église. C'est cela que je souhaite à vous et à nous, que nous puissions ensemble travailler dans cette direction afin de glorifier et de louer notre Seigneur et que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions grandir dans l'amour et dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.